Merci. Donc je vais commencer en excusant Sylvie Ramon, directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui devait être parmi nous aujourd'hui et que malheureusement un empêchement a retenu à Lyon. Et donc elle ne peut nous accompagner ce matin pour ouvrir cette intervention. Je voudrais en préambule à notre communication dire juste un petit mot. Du coup, je crois que l'image des visuels du musée a disparu. Ce n'est pas grave. Pour vous dire donc comment s'inscrit la politique d'exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette politique est une politique centrée autour de la diversité des collections de notre institution, qui est un musée à vocation universelle, qui a été créé en tant que tel au XIXe siècle. Et nous tenons aujourd'hui à poursuivre véritablement cette vocation pour organiser une petite exposition qui illustre vraiment la variété de ces collections et qui permette de correspondre à chacun des pans donc de celle-ci. Donc en alternant aussi bien des expositions ayant trait aux antiquités à l'art ancien au XIXe siècle ou bien aux objets d'art, aux arts décoratifs ou enfin à l'art moderne. C'est en ce sens que nous avons travaillé durant ces dernières années. C'est une politique d'exposition aussi qui est souvent liées à des projets effectivement d'acquisition et à la mise en valeur d'importantes acquisitions qui ont pu être réalisées donc par le musée au cours de ces dernières années. Nous avons la chance en effet au musée des Beaux-Arts de Lyon de bénéficier de deux cercles de mécènes qui soutiennent nos projets d'acquisition et qui nous ont permis de réaliser donc des acquisitions importantes durant ces dernières années. En l'occurrence, cette politique a été initiée en 2008 avec l'achat d'un tableau de Nicolas Poussin, La Fuite en Égypte, que vous pouvez voir actuellement dans l'exposition du musée du Louvre consacrée à Nicolas Poussin. Ce tableau donc avait vraiment permis de fédérer un ensemble d'entreprises autour du musée et nous a permis donc d'initier cette politique qui s'est poursuivie ensuite avec l'achat d'œuvres de Pierre Soulages, de Jean-Auguste Dominique Ingres, d'Alexandre Évariste Fragonard et nous menons actuellement un projet autour de Corneille de Lyon.
Bonjour à tous, on m'entend? Oui, ça fonctionne. Donc, le monastère royal de Brou est avant tout effectivement un monument national, donc un mausolée fondé par Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas, fille et tante d'empereur. Mausolée donc érigé pour son troisième époux, le duc de Savoie, Philibert le Beau, avec un couvent composé de trois cloîtres à étages, dans lequel s'est installé en 1922 le musée municipal de Bourg-en-Bresse, qui est un musée avant tout de beaux-arts et d'arts décoratifs, dont les collections cependant ne trouvent pas l'origine dans la fondation même du monument. Donc c'est un établissement qui a effectivement deux tutelles, à la fois le Centre des Monuments Nationaux et la ville de Bourg-en-Bresse, qui est une ville de taille moyenne de 40 000 habitants. La politique d'exposition donc alterne les expositions d'art ancien et d'art contemporain, en privilégiant évidemment le lien tant avec les collections du musée qu'avec le monument. Donc vous le voyez là à travers quelques couvertures de catalogue. Donc nous veillons aussi à faire redécouvrir des artistes ou des œuvres également peu connues du public. Par exemple, la dernière exposition d'intérêt national, qui était aussi un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts d'Arras, l'or du Japon a permis de mettre en valeur des lacs japonais anciens, pour la plupart inédits, des collections publiques françaises. Ou encore l'exposition Gustave Doré en 2012, donc un artiste qui nous est cher puisqu'il a publié ses premières lithographies à Bourg-en-Bresse et nous en possédons un fonds important.
Alors je vais maintenant vous proposer de rentrer dans le vif du sujet donc de nos expositions pour vous présenter donc le thème général qui a retenu notre attention dans le cadre de ce projet donc que nous avons intitulé l'invention du passé. Il s'agit en fait d'une analyse d'un phénomène qui a été particulièrement important né dans les premières années du 19e siècle qui est un nouvel intérêt pour ce que l'on a appelé le passé national. Donc à l'époque, il faut avoir en tête que l'on considère l'histoire sans la périodisation que nous avons aujourd'hui et qu'on avait tendance, en ce début du 19e siècle, à confondre dans une même périodisation le Moyen-Âge, le 16e et le 17e siècle, que l'on qualifiait donc de ce terme de passé national. Jusqu'à cette période, en fait, ces sujets historiques, empruntés donc à ces périodes plus proches que l'Antiquité, n'avaient bénéficié que de peu d'illustrations et lorsque ces sujets avait été illustré, il y a eu une série de commandes au XVIIIe siècle qui s'attachaient à les représenter, il n'y avait pas de véritable volonté de reconstitution, de mise en scène avec une vérité de la représentation. Et c'est en cela que le XIXe siècle va véritablement rompre avec ces modes de représentation plus anciens, en s'intéressant véritablement au contexte de ces œuvres, au contexte historique, avec une volonté de recréation de celui-ci. Alors il faut resituer cela aussi dans un contexte plus large, qui est un contexte qui touche donc non seulement les beaux-arts, mais également bien sûr la littérature, bien sûr les arts de la scène, bien sûr également l'essor des études historiques, qui est particulièrement important dans cette première moitié du XIXe siècle, avec la mise en place de l'histoire en tant que discipline, avec la génération des historiens libéraux. Ce goût en peinture a une date de naissance qui nous a paru bien arrêté, et ça a été le point de départ de cette exposition. Cette date de naissance est liée au tableau que vous voyez ici, qui est une œuvre de Fleury Richard. Fleury Richard est un artiste lyonnais sur lequel nous reviendrons. Ce tableau représente Valentine de Milan, qui était l'épouse du duc Louis d'Orléans. Celui-ci avait été assassiné par son cousin, le duc de Bourgogne, elle a ensuite pleuré la perte de son époux, réclamé en vain justice, et elle serait décédée de désespoir un an après la perte de son époux. Donc c'est le sujet que choisit ici Fleury Richard, inspiré par le tombeau de Valentine de Milan, qu'il découvre au Musée des Monuments Français de Lenoir, à Paris, installé dans le couvent des Petits Augustins. Et donc il va s'attacher à faire revivre ce passé en prenant appui sur ce gisant, de manière à lui redonner vie, à le ressusciter en quelque sorte, pour créer cette composition, qui est une sorte de mélancolie suivant le type de composition des mélancolies traditionnelles, mais médiévalisées, si l'on peut dire. Donc c'est véritablement une innovation à l'époque, qui va frapper beaucoup les contemporains, qui va avoir un succès absolument extraordinaire et qui va lancer une vogue qui va ensuite se diffuser en France, mais aussi en Europe, et cela a été donc le sujet de cette exposition. Alors, nous allons maintenant vous expliquer pourquoi, plus précisément, nous nous sommes intéressés à ce sujet à Bourg-en-Bresse et à Lyon.
Alors effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Gennaro Toscano, le musée municipal de Bourg-en-Bresse a été l'un des premiers à s'intéresser à ce mouvement que l'on appelait alors le style troubadour. C'est un thème tout à fait apocryphe qui a été forgé à la fin du XIXe siècle, donc pour désigner cette peinture de genre anecdotique, badinage du genre historique, pour reprendre le mot de Vivant Denon, qui s'est transformé ensuite en genre historique. Nous reviendrons là-dessus au cours de notre exposé. Donc en 1971, Françoise Baudson, le conservateur de l'époque, a réuni un certain nombre de peintures, d'objets. Beaucoup d'ailleurs ont été de nouveau exposés lors de l'invention du passé. Avec un petit catalogue donc assez sommaire et qui posait néanmoins la question justement de la définition de ce style troubadour et qui a marqué le début de la constitution d'une collection dans notre musée avec en effet de nombreux achats. Donc il y avait un petit noyau déjà d'œuvres essentiellement lyonnaises anecdotiques dans le legs fondateur lorrain de 1853, mais il s'agissait de quelques œuvres seulement. Et aujourd'hui, donc, nous avons une petite trentaine d'œuvres qui peuvent être rattachées à ce mouvement dit troubadour. Donc ici, un des très beaux exemples, La mort du prince de Talmont de Fleury Richard, ou encore ce tableau très délicat et très typique de Jean-Antoine Laurent. Pour nous, l'exposition donc permettait en effet de pouvoir, 40 ans après, s'intéresser de nouveau à ce mouvement, de valoriser nos collections. Il coïncidait, 2014 coïncidait également avec le centenaire de la création de la Caisse nationale des monuments historiques, devenue donc depuis le Centre des monuments nationaux. Et puis, bien entendu, le partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon nous paraissait tout à fait riche de possibilités.
Alors, les raisons de cette exposition à Lyon tiennent au fait que les artistes fondateurs donc, de cette esthétique, de cette nouvelle approche de l'histoire, sont donc d'origine lyonnaise. Fleury Richard, donc, que nous avons déjà mentionné, qui a véritablement été le chef de file de cette peinture, est vraiment l'un des artistes que nous voulions mettre le plus en avant dans cette exposition. Et d'autre part, une autre figure importante de ce courant, qui a été Pierre Révoil. Pierre Révoil, en même temps important collectionneur, sur lequel nous reviendrons aussi. C'est la raison pour laquelle, en fait, là aussi, dès l'origine, le Musée des Beaux-Arts de Lyon a acheté en fait des œuvres à ces artistes, ou bien a bénéficié de dons de leur part. C'est ainsi que Pierre Révoil a donné au musée en 1814 ce tableau très important présenté au salon de 1812, Le Tournoi. Donc, premier tournoi auquel a participé Bertrand du Guesclin, alors qu'il était très jeune à Rennes au début du XIVe siècle. Une œuvre très, très représentative des recherches de Révoil. Ou bien voici un tableau qui a été acquis par la ville de Lyon de Fleury Richard, donc là aussi dès l'origine, très peu après sa présentation au salon, Montaigne visitant le Tasse en prison. C'est un sujet qui extrait des essais de Montaigne où il raconte la visite qu'il rend donc au Tasse alors qu'il est enfermé donc dans les prisons de Ferrare suite à des crises de démence. Donc des artistes qui ont toujours été présents dans les collections du musée et un fonds qui s'est trouvé considérablement renforcé par une opportunité exceptionnelle qui a été en 1988 l'achat auprès des descendants de Fleury Richard de son fonds d'atelier qui avait été, on peut le dire, miraculeusement préservé. Je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement rare pour les artistes de cette époque où l'on a très très peu de cas de figure de la sorte, si ce n'est des artistes qui ont pu léguer immédiatement après leur décès, leur fonds d'atelier à des institutions, mais un fonds préservé aussi longtemps dans son intégralité, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ce fonds contient près de 500 dessins, il contient une vingtaine de carnets avec toute sa culture visuelle, des études préparatoires pour ses tableaux. Ce fonds comprend également des archives et comprend aussi sa collection d'estampes. Donc vraiment un ensemble absolument exceptionnel qui avait déjà fait l'objet de quelques présentation, mais qui n'avait jamais été véritablement remontré depuis 1989. Donc cela faisait déjà un petit peu de temps. Vous avez ici quelques exemples avec des pages extraites de carnets. Vous trouvez notamment en haut deux études préparatoires pour Valentine de Milan et à droite une étude du gisant de Marguerite d'Autriche au monastère royal de Brou. C'était un petit clin d'œil à ma voisine. Et puis donc quelques autres dessins extraits de ce fonds, dont une lettre composée à la manière des enluminures médiévales, qui est un amusement en fait de Révoil à l'attention de Fleury Richard. En 2005, ce fonds s'est trouvé complété par des dons des descendants de l'artiste qui avaient retrouvé de nouveaux carnets et qui ont souhaité donc les donner au musée pour compléter cet ensemble. Ces carnets étaient inédits jusqu'à présent, les précédents avaient été publiés mais ceux-ci ne l'avaient pas été. Et par ailleurs, ce qui est aussi un document tout à fait exceptionnel, ils ont fait don aussi du manuscrit des souvenirs de l'artiste, qui là aussi est un témoignage absolument exceptionnel de la vie artistique dans la première moitié du XIXe siècle, manuscrit qui est illustré, comme vous le voyez, donc de dessins, mais aussi de quelques estampes. À cela est venue s'ajouter donc une acquisition exceptionnelle que Gennaro Toscano a mentionné, qui est en 2013 l'entrée dans les collections de ce tableau d'Ingres, L'Arétin, l'envoyé de Charles Quint. Ingres est un artiste qui était présent dans les collections du musée par des études peintes, par une réplique d'atelier du portrait du duc d'Orléans, par de très beaux dessins, mais nous ne possédions pas de peinture représentative de son travail, si l'on peut dire. Et en particulier, nous nous intéressions beaucoup à son travail dans le domaine de l'histoire, parce que celui-ci s'inscrit en résonance avec le travail des peintres comme Fleury Richard ou Pierre Révoil. Et donc, c'est une opportunité exceptionnelle qui s'est présentée, que nous avons pu mener là aussi avec l'aide de mécènes, qui nous a permis donc de réaliser cette acquisition qui donc a été présentée dans le cadre de l'exposition. Alors ce projet s'est appuyé sur une recherche scientifique particulièrement importante menée au cours des 30 dernières années. En effet, c'est un domaine qui n'avait plus depuis 1971 fait l'objet d'aucune exposition dans son ensemble. Certes, des manifestations s'étaient intéressées à ce sujet, mais sous un angle très particulier, qui était l'angle parfois des collectionneurs ou des angles thématiques autour de certaines figures historiques. Mais cependant, il n'y avait pas eu d'exposition réunissant un ensemble d'œuvres de ces artistes pour illustrer ce phénomène. Donc c'est ce qui a été le point de départ de notre ambition pour ce projet. Et par ailleurs, donc il y a eu un certain nombre de travaux de recherche menés depuis une trentaine d'années par des chercheurs qui donc avaient donné lieu à une production importante en termes d'histoire de l'art que nous souhaitions valoriser aussi par le biais de cette exposition. Alors vous avez ici quelques-unes des références qui ont été les nôtres pour ce projet. Alors le musée lui-même, le musée des Beaux-Arts de Lyon, avait abordé ce sujet par le biais de quelques expositions qui esquissaient en fait le discours qui a été le nôtre, notamment une exposition qui a été je crois un jalon important pour l'étude de la peinture d'histoire qui s'appelait Triomphe et mort du héros, qui a eu lieu dans les années 1990, et puis donc une exposition sur les artistes à Lyon sous la Révolution et l'Empire qui s'appelait Les Muses de Messidor en 1989-90, et enfin en 2007 une exposition qui s'attachait à la peinture à Lyon au 19e siècle qui s'intitulait Le temps de la peinture. Donc par ailleurs, comme je vous le disais, de nombreux chercheurs ont travaillé sur cette question. Nous avons souhaité les fédérer autour de ce projet dans le cadre d'un comité scientifique. Et nous avons plus particulièrement associé l'un d'eux. Vous avez donc les couvertures de quelques-uns de leurs ouvrages. En particulier, il convient de citer Marie-Claude Chaudonneret qui a sorti de l'oubli ces artistes en travaillant sur et en éditant le catalogue raisonné de l'œuvre de Richard et de Révoil. Mais nous avons donc associé plus particulièrement pour ce projet en tant que commissaire Stephen Bann, qui est professeur émérite en histoire de l'art à l'université de Bristol et senior research fellow, qui nous a accompagnés donc dans cette aventure.
Alors, la proximité géographique de nos deux musées, de nos deux villes, donc qui sont situées à 60 km l'une de l'autre, hein, c'est une heure de route à peu près, impliquait donc que ce partenariat ne consiste pas en une itinérance de l'exposition, mais bien en deux volets complémentaires, ayant chacun son identité, tout en préservant quand même une cohérence. Les deux volets pouvaient se voir dans un sens ou dans un autre, même si effectivement pour le catalogue nous avions plutôt situé le volet de Brou en premier, dans la mesure où il traitait des débuts vraiment de ce mouvement, se situait voilà, dans une période chronologique un peu plus ancienne. Donc le volet de Brou était sous-titré « Gothique, mon amour », puisque justement par rapport à la présence très forte du monument à l'architecture flamboyante, nous souhaitons mettre en avant cette redécouverte, cette réhabilitation de l'art médiéval dans cet art dit troubadour. Nous avons évidemment aussi ajusté nos ambitions à l'échelle du musée, d'où le choix de nous concentrer sur avant tout des artistes français, avec quelques Italiens. Il ne faut pas oublier que nous étions dans le duché de Savoie jusqu'en 1601, donc les Italiens se sont beaucoup intéressés aussi à Brou, et donc vous le verrez au cours du parcours, ça nous paraissait important de ne pas les oublier, mais bon, nos moyens financiers ne nous permettaient pas, comme à Lyon, par exemple, de couvrir l'ensemble de l'Europe. Donc nous avons vraiment mis l'accent sur le lien très fort avec le monument, le contexte architectural, cette redécouverte du patrimoine médiéval. Nous avons également choisi de nous concentrer sur un cadre chronologique un petit peu plus restreint, celui de la première génération des troubadours. Et nous avons cherché également à jouer sur l'ambiance, en fait, sur la résonance entre les œuvres exposées et les voûtes, l'écrin architectural, en jouant aussi sur les émotions avec des citations littéraires qui ponctuaient un parcours avant tout thématique. Nous avons également cherché à présenter des artistes différents dans les deux volets. Donc certains, évidemment, étaient incontournables, comme Fleury Richard ou Pierre Révoil, et se retrouvaient dans les deux parcours. Mais d'autres artistes aussi étaient présentés à Brou, comme Bouton, Daguerre, Forbin, Granel, Laurent, etc. Alors le parcours à Brou donc comprenait près de 120 œuvres sur deux niveaux. Donc c'était pour nous une exposition particulièrement ambitieuse, importante. Et nous l'avons donc fait débuter avec effectivement la création du musée des monuments français dans l'ancien couvent des Petits Augustins. Et cette prise de conscience face au vandalisme révolutionnaire, donc cette prise de conscience de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine. Donc le musée des monuments français, en fait, a été créé à partir d'un dépôt provisoire par Alexandre Lenoir. Il est devenu d'autant plus mythique qu'il a été éphémère, puisque donc après son ouverture en 1793, il a dû fermer ses portes à la Restauration en 1816, puisque beaucoup d'objets ont réintégré en particulier l'église de Saint-Denis. Et d'autres se trouvent maintenant dans les musées nationaux. Donc le Louvre prépare d'ailleurs une exposition prochainement au sujet du musée des monuments français. Donc c'était un musée très particulier, avec une ambiance poétique. Alexandre Lenoir n'hésitait pas justement à recomposer des fragments de diverses provenances pour servir son propos. Et il a eu un énorme succès et a été notamment très fréquenté par les artistes. Et c'est précisément donc dans ce musée que Fleury Richard a trouvé l'inspiration de sa Valentine de Milan en 1802, comme le rappelait Stéphane Pacou. Donc vous avez ici justement sous les yeux une représentation donc des Thermes de Cluny avant qu'ils ne deviennent plusieurs dizaines d'années après donc le Musée national du Moyen Âge, avec justement un dessinateur. Auprès de la statue de l'empereur Julien. Alors cette section, je ne vais pas pouvoir détailler parce que le temps imparti, voilà, devra être respecté. Donc je vais passer assez rapidement sur les œuvres, en me concentrant plutôt sur les différentes sections. Juste peut-être un mot justement sur le plaisir que nous avons eu de pouvoir réunir ces deux versions de la salle du XIVe siècle. Puisque nous avons une version présentant la folie de Charles VI, donc un tableau qui était une sorte d'hommage un an après la fermeture du musée, où Charles-Marie Bouton donc place parmi les gisants de Saint-Denis le roi Charles VI en pleine crise de folie, tandis que Valentine de Milan cherche à repousser la cour qui se presse en arrière-plan. Le roi est auprès des gisants de ses parents, Charles V et Jeanne de Bourbon. Donc là, on voit vraiment une recomposition chronologique totalement fantaisiste, puisqu'on va placer donc un roi des personnages du Moyen-Âge dans la salle d'un musée du XIXe siècle avec des éléments du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le noir donc redresse les gisants, donc c'est vraiment une manière aussi d'en faire des galeries de portraits et de ressusciter littéralement ces personnages du passé. La deuxième partie de l'exposition était consacrée aux cryptes et tombeaux. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le monastère de Broux donc abrite trois tombeaux fastueux de Marguerite de Bourbon, Marguerite d'Autriche et Philibert le Beau. Donc c'est un sujet qui a été énormément traité par les peintres de genre anecdotique, mais qui trouvait aussi sa résonance à une résonance particulière à Broux. Donc ces tombeaux, ces gisants étaient très nombreux au musée des monuments français, étaient avec les documents écrits l'un des premiers témoins justement de ces visages de personnages d'un passé révolu. Donc il prenait voilà cette signification d'une transmission générationnelle et aussi d'un hommage voilà rendu aux morts qui avaient été nombreux donc pendant la période révolutionnaire, d'où la multiplication aussi des figures de veuves de fidélité matrimoniale au-delà de la mort. Alors peut-être un petit mot par contre sur cette idée de la de la légitimité monarchique qui a souvent été associée avec cette redécouverte justement de l'histoire nationale de l'Ancien Régime. En fait, donc ce mouvement est vraiment né très tôt sous l'Empire, et ce n'est qu'après, sous la Restauration, qu'on a voulu lui donner ce sens. Et le tableau que vous avez sous les yeux en est l'exemple parfait, puisqu'il a été rebaptisé sous la Restauration pour y figurer le jeune Henri de Navarre et donc voilà illustrer la légitimité des Bourbons. Il y a également, évidemment, dans la représentation des tombeaux et de la mort très fréquente, une dimension romantique, métaphysique. Et on le voit sur cette belle vanité de Pierre Révoil qui montre Charles Quint. Donc Charles Quint qui a aussi des liens avec l'histoire du monastère royal de Broux, puisque c'est le neveu de Marguerite d'Autriche qu'elle a élevé. Et donc Charles Quint a été une des figures les plus prisées de ces peintres troubadours qu'il a fasciné par son abdication, son renoncement au pouvoir alors qu'il était empereur, qu'il était tout puissant. Et on le voit ici donc retiré au monastère de Saint-Just, regardant une tombe ouverte avec donc une inscription et des symboles d'une royauté déchue, voilà, quel que soit le grade, la puissance occupée sur la vie terrestre, la fin est la même pour tout le monde. Et le jeune berger le renvoie également à sa jeunesse perdue. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Pierre Révoil en fait s'inspire à la fois du portrait de Titien, de l'empereur, également de miniatures du roi René, etc. Mais il recompose tout ça, bien entendu, dans un ensemble tout à fait imaginaire. La troisième section donc faisait un lien avec les deux précédentes. Elle était consacrée aux histoires d'amour. Histoires d'amour qui sont souvent impossibles et marquées justement par des issues tragiques, par la mort. Des histoires d'amour donc qui se passent dorénavant au Moyen-Âge, avec en particulier donc un engouement extraordinaire pour l'histoire d'Héloïse Abélard, dont le tombeau imaginaire avait été reconstitué par Alexandre Lenoir au Musée des Monuments Français, et qui a fait l'objet d'un très grand nombre d'illustrations et de tableaux. Vous en avez un exemple ici, donc avec Héloïse embrassant la vie monastique. Donc on voit dans ces tableaux justement une grande attention portée à la narration. On voit le mouvement suspendu donc d'Héloïse qui est partagé entre d'un côté la vie mondaine symbolisée par les bijoux, la fenêtre donnant sur l'extérieur, et de l'autre la mer supérieure et le voile qu'elle s'apprête à prendre. On peut voir sur ce tableau aussi donc toute la délicatesse, la minutie, tout l'héritage aussi de la peinture hollandaise que ces artistes admirent énormément. Nous valorisions aussi dans cette section donc les trois dernières acquisitions du musée dans le domaine de la peinture troubadour, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc ces histoires d'amour se passent aussi, sont souvent chastes et impossibles. Donc le contexte monastique fournit à la fois un cadre architectural de choix, mais aussi cette impossibilité. Alors le roman noir qui s'est développé dans les années 1770 aussi a contribué à cette fascination pour les cloîtres, qui sont des lieux secrets, fermés au public, des moines et des moniales qui renoncent à leur identité, qui changent de nom, dont le visage est dissimulé sous leur capuchon. Donc ici un très beau tableau justement qui provient du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous avons beaucoup mis à contribution les collections fabuleuses du musée et grâce au fonds d'atelier de Fleury Richard, nous avons aussi pu justement mettre en parallèle des dessins préparatoires avec les tableaux définitifs. Vous voyez qu'ici donc Fleury Richard place l'histoire d'Adélaïde et Comminges, qui est censée se passer au couvent de la Trappe et qui émane d'un roman du XVIIIe siècle. Il le place en fait dans le cloître Saint-Trophime d'Arles qu'il a pu observer lors d'un voyage dans le sud de la France. Je pense que je vais accélérer un petit peu. Donc cette fascination des cloîtres, à la fois ces peintures représentent aussi des documents archéologiques, puisque pour certaines d'entre elles représentent des édifices aujourd'hui disparus. C'est le cas ici donc pour un cloître de l'île Barbe dont Fleury Richard fait le cadre d'une Jeanne d'Arc venant de demander conseil à un ermite suite aux voix qu'elle a entendues. Les contes de fées sont évidemment aussi un réservoir de sujets inépuisables. Je vous ai montré Podane tout à l'heure, ici le petit chaperon rouge que Richard place là aussi dans un couvent disparu de Lyon, celui de l'Observance. Aussi un petit clin d'œil à Hautecombe, qui est l'autre nécropole importante de la maison de Savoie avec le monastère royal de Broux, et qui a été restauré dans un style éclectique, néo-gothique, dans les années 1830, et figuré ici par un peintre italien, Giovanni Migliara, qui est très influencé par les peintres français, en particulier Granet. Nous avions ensuite une cinquième section sur le spectacle des églises. Il n'est pas anodin de relever que Le génie du christianisme de Chateaubriand a été publié en 1802, l'année même de la présentation de Valentine de Milan au salon. Et donc cette année-là va vraiment marquer la réhabilitation aussi de ces églises désaffectés à la fois par le sentiment chrétien, mais aussi tout simplement par l'admiration pour la beauté de l'architecture, qu'elle soit romane ou gothique. Le diorama créé par Bouton et Daguerre en 1822, qui sera promis un très grand succès populaire, va également utiliser donc ces intérieurs de vue d'église qui vont être promis ensuite également un très grand succès sous la monarchie de Juillet. Donc vous voyez sur ce très grand tableau spectaculaire aussi tout l'héritage du roman noir et l'impression glaciale qui est recherchée par le peintre. Évidemment, dans cette partie aussi est évoquée toute l'influence, l'importance des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France en 1825, dont Adrien d'Osa était l'un des collaborateurs. Granet, qui a lui aussi donc su représenter des intérieurs d'église, alors cette fois-ci avec des scènes, parce que vous avez à la fois des intérieurs d'église avec ou sans scènes anecdotiques. Ici, il pouvait y avoir aussi des jeux de renvoi assez intéressants entre nos deux expositions, puisqu'on retrouvait un peu les mêmes personnages aussi, suivant les tableaux. Là, on voit l'ordination de Jacques de Molay dans l'ordre du Temple sur ce tableau de Granet. Le public pouvait voir Jacques de Molay partant pour l'échafaud à Lyon, peint par Fleury Richard. Donc, nous avions aussi évidemment une section consacrée aux représentations de notre monastère royal de Brou, qui a été aussi une source d'inspiration importante. Alors, malheureusement, beaucoup de représentations qui sont cités notamment dans les livrets du salon sont perdus. C'est le cas de celle de James Roberts et de Bonington. Mais outre les représentations des voyages pittoresques et romantiques, donc il y a eu un certain nombre de représentations importantes. Celle-ci, par exemple, d'Auguste Mathieu, un grand tableau qui est important pour nous parce que c'est le premier numéro d'inventaire du musée, premier renvoi de l'État, et nous l'avons fait restaurer pour l'occasion. Il montre François Ier visitant l'église de Brou, donc fondée par sa tante par alliance et qui abrite donc les tombeaux de sa grand-mère et de son oncle. Je le disais tout à l'heure, donc les Italiens se sont aussi beaucoup intéressés à Brou, notamment dans la construction de leur identité nationale contre l'occupation autrichienne. Et donc il y a eu beaucoup de représentations pour Charles Albert, pour Victor Emmanuel et pour Antonio Litta. Donc on en montrait quelques exemples. Ensuite, à l'étage du musée, on changeait tout à fait d'ambiance. Donc, on quittait les voûtes des salles capitulaires pour les cellules de moines avec une ambiance cette fois-ci plus civile. Et donc, une section consacrée au château et chevaliers, avec toujours cet idéal vertueux, mais bien entendu. Également des personnages qui sont montrés dans leur humanité, dans leur vulnérabilité, et puis donc des édifices majestueux qui permettent aussi d'associer la représentation d'un paysage. Voilà. Et on va créer d'ailleurs au salon la catégorie du paysage historié. Cette fois-ci avec des édifices médiévaux. Je pense que je suis un peu trop longue. Donc ensuite les intérieurs gothiques, les objets d'art, et puis la dernière section donc qui ouvrait justement sur la poursuite de ce mouvement, sachant que en effet, comme le rappelait Stéphane Pacou tout à l'heure. 1830 va marquer une césure puisque c'est l'année où se crée le premier poste d'inspecteur des monuments historiques, où va se structurer justement la recherche historique, la pratique de la restauration de ces monuments. Le goût va se faire plus éclectique et le style gothique prendra une signification beaucoup plus militante, beaucoup plus monarchiste. comme par exemple sur ce très beau coffret de toilettes de la duchesse de Parme qui fait partie d'un ensemble plus important. Et puis nous concluons l'exposition aussi sur un petit clin d'œil justement à notre Gustave Doré, qui a été, dans l'imaginaire, a été fortement marqué justement par cette génération précédente ayant vraiment sorti de l'oubli les récits légendaires du Moyen-Âge.
Je prends le relais pour vous dire donc quelques mots rapides du propos et du parcours de l'exposition de Lyon. Exposition qui se concentrait donc sur la question de la représentation de l'histoire, donc de ce passé national, depuis donc la Valentine de Milan de Fleury-Richard jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc nous avions intitulé ce volet lyonnais « Histoire de cœur et d'épée en Europe, 1802-1850 ». Donc je vous propose un survol rapide donc de celle-ci avec quelques vues donc des salles de l'exposition. La scénographie de l'exposition avait été réalisée par Didier Blin et le graphisme par Noémie Lelièvre. Donc vous allez pouvoir en apercevoir quelques vues. Donc le parcours s'ouvrait donc autour de la figure de Fleury-Richard avec un dossier intitulé Naissance d'un genre autour donc de ce tableau de Valentine de Milan que nous avons vu tout à l'heure, avec une volonté qui a été une constante au cours du parcours de cette exposition de contextualisation. C'est-à-dire d'expliquer en fait les sources de ce goût, de cette représentation de l'histoire, quelles sont les sources plastiques, les sources historiques utilisées par les artistes, quelle est la réception de ces œuvres, qui était aussi véritablement un aspect important de notre discours, réception par le public, par la critique, réception et diffusion, diffusion en particulier par le biais de l'estampe, qui est le principal vecteur dans la première moitié du 19e siècle, qui est essentiel pour comprendre l'exceptionnel succès de ces formules à travers l'ensemble du continent européen. Alors juste pour commencer, nous retrouvons voilà la figure de Fleury-Richard avec un autoportrait mis en scène dans un atelier fictif et programmatique qui illustre ce goût du Moyen-Âge. Et puis donc nous poursuivions avec un ensemble de tableaux qui illustrent donc le travail de cette génération active sous l'Empire et sous la Restauration, que la critique réunit donc sous une bannière spécifique que l'on va nommer donc non pas peinture troubadour, puisque comme nous vous le disions c'est un terme apocryphe, mais genre anecdotique, qui est donc la catégorie formelle créée par la critique pour distinguer ce genre hybride entre peinture d'histoire et scène de genre, puisque donc nous sommes sur des formats qui sont des formats petits ou moyens, et non pas les grands formats de la peinture d'histoire avec des figures grandeur naturelle. Nous sommes également sur une approche beaucoup plus anecdotique en termes de sujet et un goût du détail que vous trouvez par exemple dans cet autre tableau de Fleury-Richard montrant François Ier et sa sœur Marguerite de Navarre, un tableau qui voilà, vous montre cette volonté de recréer un intérieur de la Renaissance, avec toute une série de sources. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout est effectivement particulièrement bien connu grâce au fonds d'atelier de l'artiste et notamment son travail à partir des manuscrits de la bibliothèque impériale. Une section spécifique était consacrée à la figure de Pierre Révoil. Pierre Révoil, artiste collectionneur, l'un des premiers collectionneurs d'objets d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. Vous savez que sa collection a été acquise en 1828 par le comte de Forbin pour le musée du Louvre et elle est la base de l'actuel département des objets d'art. Cette collection lui sert de point de départ pour composer ses tableaux et nous pouvons nous amuser au petit jeu de reconnaître en fait les objets à travers les tableaux de Révoil. Alors ici, c'est peut-être l'un des exemples les plus frappant de cette volonté de résurrection du passé, de restauration du passé, qui est celle de Révoil, dans cette convalescence de Bayard où nous avons presque une accumulation d'objets antiquaires. Nous avions à nommer cette section Révoil peintre antiquaire, justement. Alors, un artiste que nous avons isolé, parce qu'il est très à part, en fait, il est de la même génération, il est issu, tout comme Révoil et Richard, de l'atelier d'Ingres, mais il va se distinguer de leur pratique. Il est difficile de le ranger, d'ailleurs, la critique ne le rangeait pas sous la bannière du genre anecdotique, à l'époque, parce que, certes, il travaille sur les mêmes sujets, certes, il travaille sur, là aussi, des petits formats, mais dans une approche esthétique qui est différente et qui est la sienne propre, c'est Ingres, où vous retrouvez avant tout ce goût de la ligne, qui est la caractéristique première de son art. Nous avions confronté à Sao Paulo et Francesca une autre version du même thème par Coupin de la Couperie, qui est un artiste proprement troubadour, qui était vraiment dans le goût du détail, alors que là, nous sommes dans une épure au niveau de la composition, et toujours une référence au maître du passé, qui est une constante aussi dans l'art de Ingres, que vous retrouvez par exemple dans cette mort de Léonard de Vinci, qui est peut-être l'un des tableaux les plus célèbres dans ce goût du passé, qui est abondamment reproduit encore aujourd'hui, où les références à Titien, à Raphaël, etc. sont très, très abondantes. L'exposition était conçue en trois actes. Premier acte autour de cette première génération. Deuxième acte, que nous ouvrions donc avec une figure qui est une figure centrale, qui est celle de Paul de la Roche, et qui ouvre une seconde génération active, cette fois sur la période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, que la critique va définir sous un nouveau terme. On va donc rompre avec ce genre anecdotique pour créer une nouvelle catégorie, le genre historique. Vous voyez qu'ici, nous passons dans des formats avec Paul de la Roche qui sont des formats plus importants, avec des figures de grandeur naturelle, des tableaux qui impliquent le spectateur. Lorsque vous êtes face à ces œuvres, vous êtes véritablement happé dans le tableau. Vous vous trouvez en fait comme un spectateur face à une scène de théâtre. C'est véritablement l'effet voulu par l'artiste. Voilà, donc ici, une vision de la salle que nous consacrions. Et puis donc quelques-uns des tableaux importants de cet artiste que nous avions pu réunir. Je pense que c'était une première de les voir réunis dans la même salle à l'occasion de cette exposition, donc Cromwell et Charles Ier, ou bien Les Enfants d'Édouard, un thème emprunté à Shakespeare, qui est en particulier un tableau qui a fasciné les contemporains, et le sujet en a été abondamment repris, de même que la composition. Donc c'est un artiste sur lequel il faudrait s'appesantir très longtemps, mais nous n'en avons pas le temps ici pour vous montrer quelle a été son importance fondamentale. C'est peut-être une figure qui a été plus oubliée par la suite, mais c'était, il faut en avoir vraiment conscience, l'un des artistes français, ou peut-être l'artiste français le plus connu et le plus apprécié hors des frontières, par une diffusion exceptionnelle de ses compositions par le biais de la gravure et par une circulation de ses tableaux dans les collections ou dans les expositions à travers l'Europe à cette époque. Alors une petite incise dans le parcours se consacrait à deux figures, Eugène Delacroix et Richard Parkes Bonington, qui parallèlement dans les années 1820 ont élaboré eux aussi une formule spécifique de représentation du passé national dans des petits formats, mais là encore, comme Ingres si l'on veut, avec une manière très personnelle. Finalement les sujets chez eux importent peu, ce qui compte avant tout c'est le goût de la couleur, le goût de la peinture, comme vous avez ici un exemple avec ce tableau de Delacroix. Nous poursuivions donc avec cette même génération. Alors c'est l'image, et je remercie l'INP de l'avoir choisi pour illustrer le programme de ce colloque, voilà, qui vous montre donc l'abondance ensuite de cette production, soutenue notamment par des commandes passées par le roi Louis-Philippe, en particulier pour le décor de la galerie d'Apollon au Louvre ou pour le musée historique créé à Versailles, donc sur décision de Louis-Philippe. Donc on passe à une production qui était plutôt une production d'un cadre privé pour des collectionneurs, y compris illustres, l'impératrice, ses enfants, la duchesse de Berry, etc., à une production soutenue par l'État avec, cette fois, véritablement une visée aussi politique qui s'empare de ce discours, même s'il faut considérer cela toujours avec prudence. Et le troisième et dernier acte de l'exposition s'attachait à étudier donc la diffusion européenne de ce langage, puisqu'il est donc tout à fait frappant de voir comment dans chaque pays européen l'on trouve ce même goût pour la représentation du passé national qui émerge avec une diffusion des modèles français. Et cette diffusion des modèles français permet de rompre avec des formules qui étaient considérées comme datées, en particulier un néoclassicisme vieillissant ou bien des héritages un peu pesants comme l'héritage de Goya que l'on répétait à satiété en Espagne ou bien la peinture des Nazaréens en Allemagne. Cette formule française est une formule considérée comme moderne, plus vivante, plus naturaliste, plus colorée, et elle correspond dans beaucoup de ces pays à ce que l'on a qualifié de romantisme en fait. Donc il y a une différence là aussi d'appréciation de ces peintures. C'était dans cette exposition la première fois que l'on réunissait des œuvres de ces différentes écoles nationales, et c'est un aspect auquel nous tenons beaucoup, cette ouverture européenne, pour montrer cette diffusion de ces modèles, donc au-delà des frontières. Alors en Belgique, avec un artiste comme Louis Gallet, je vais défiler quelques exemples un peu rapidement, en Allemagne avec un artiste comme Karl Theodor von Piloty, en Pologne et en Europe centrale, donc avec un artiste comme Jan Matejko ici, et jusque dans des pays peut-être plus inattendus, avec des artistes qui sont beaucoup moins connus, y compris parfois dans leurs pays respectifs, comme l'anglais Augustus Egg. Ou bien même en Italie, où cette formule émerge assez vite par des contacts plus faciles avec la France, avec deux figures comme Pelagio Palagi et Francesco Hayez. Voici l'un des derniers achats du Louvre, un grand tableau de Francesco Hayes que nous avons été les premiers à pouvoir montrer. Et puis nous terminions avec l'Espagne. L'Espagne qui, là aussi, va s'emparer de cette formule. Et nous concluons avec l'héritage de cette peinture qui va voir ces formules en fait s'arrêter autour de 1850 avec la disparition progressive donc des artistes qui en ont été les acteurs, mais néanmoins elle va continuer par ce sens de la reconstitution, etc., à influencer l'évolution de la peinture d'histoire jusqu'à l'épuisement de celle-ci à la fin du 19e siècle. Elle va profondément influencer, aussi imprégner l'inconscient collectif par la diffusion de ses œuvres, et puis marquer aussi les débuts du cinéma et peut-être transposer ces modes de représentation du passé dans ce nouveau champ. Je crois que c'est pas la dernière version.
Oui, effectivement, on a des petits... Oui, bon. Excusez-nous, petit problème technique. Effectivement, donc le partenariat entre nos deux musées nous a permis de mutualiser beaucoup nos recherches documentaires. Donc, les expositions ont été l'aboutissement de 3 ans de préparation. Stéphane Pacou a pu bénéficier du soutien de l'INHA pour une résidence de 3 mois dans le cadre du programme d'accueil des conservateurs territoriaux. Donc 3 ans pour repérer les œuvres, négocier les prêts, faire les restaurations, les prises de vue nécessaires et concevoir donc de manière complémentaire les contenus des deux volets de l'exposition. Alors, les dates de début étaient identiques, le 19 avril, mais par contre, nous avions fait le choix de prolonger l'exposition sur la période estivale à Brou jusqu'aux Journées européennes du patrimoine, ce qui impliquait moins d'œuvres graphiques qu'à Lyon, puisque la plupart des prêteurs, donc, on avait prévu des rotations, disons, de ces œuvres sur papier. Donc c'est ce qui explique que finalement le partenariat n'ait pas été aussi économique qu'on aurait pu l'espérer sur le transport en particulier, pour lequel nous avions réalisé toutefois un marché commun. Nous n'avions pas non plus mutualisé la scénographie puisque nos moyens étaient assez différents. À Brou, nous réalisons en fait la scénographie par nous-mêmes, par l'équipe technique. Et même si la restauratrice a pu intervenir sur des œuvres communes aux deux lieux, donc elle a réalisé les constats d'état à Lyon, mais nous n'avions pas les moyens de recourir à elle à Brou.
En revanche, donc, nous avons véritablement mis en commun le travail sur le catalogue, donc avec un catalogue, comme Gennaro Toscano l'a dit, en 2 volumes, correspondant donc à chacun des 2 volets de nos expositions, avec une complémentarité des contenus. Nous avons rassemblé donc dans ces 2 catalogues 56 auteurs, la quasi-totalité, on peut le dire, je pense, des spécialistes ayant travaillé sur ce sujet, mais en proposant aussi un croisement des approches. Vous voyez quelques pages de la maquette de ces catalogue qui défile, notamment en s'intéressant aussi à des aspects ouvrant sur la littérature, sur le théâtre et les arts de la scène, sur l'histoire du costume, un croisement des regards avec l'apport de médiévistes, en particulier au catalogue du monastère royal de Brou, et puis une ouverture internationale avec donc des essais s'intéressant aux scènes étrangères pour tenter de proposer donc de nouvelles pistes de lecture et une contextualisation de ce phénomène artistique. Alors avec des essais, donc des notices d'œuvres, et en complément donc du volume du Musée des Beaux-Arts de Lyon, un CD-ROM contenant des ressources documentaires, notamment des dépouillements, des catalogues de salons, etc., que nous proposions donc au public qui souhaitait prolonger en fait ce travail. Donc nous avons effectivement mené cette publication avec un même éditeur, Azan, et un même graphiste, avec la conception d'un coffret réunissant les deux volumes. Et puis ce travail scientifique s'est accompagné aussi d'un colloque international qui a été organisé donc à Lyon en partenariat avec l'INHA, avec 2 laboratoires universitaires, le LARA pour l'Université Lyon 2 et Intru pour l'Université de Tours.
Effectivement, j'ai pas dû prendre le mot. Donc, outre l'intérêt scientifique formidable pour nous qui sommes un musée assez modeste, donc ce partenariat aussi a été une opportunité d'améliorer la communication. Donc, l'obtention du label d'intérêt national, du prix Historia. Donc, nous avons pu mutualiser le voyage de presse, avoir une charte graphique assez commune, enfin, disons, une identité visuelle voisine, même si elle était distincte. Nous avons cherché à favoriser le renvoi de public également par la proposition d'un tarif réduit. Nous avons réalisé une étude de public qui a permis de mieux comprendre aussi les motivations des visites et leurs modalités. Et nos deux équipes ont pu échanger également sur la médiation et les animations proposées à l'occasion des expositions.
Alors c'est l'un des derniers aspects que nous abordons ici, effectivement. Donc il y a eu un travail en commun autour de la médiation des expositions, avec un travail à Lyon qui porte beaucoup sur les outils d'aide à la visite pour le public individuel, notamment un travail autour des éléments donc, que l'on propose à la fois dans les salles, donc avec des outils très classiques, mais aussi un document que l'on remet aux visiteurs. Vous avez ici la maquette de ce document, un travail sur l'audio guide et puis un livret jeu pour les enfants, qui était quelque chose de plus original peut-être, et puis un travail de médiation plus classique après pour le public en groupe. Nous avons des événements qui sont récurrents dans la programmation du musée, qui sont des nocturnes, tous les premiers vendredis du mois, pour lesquels nous avons travaillé en partenariat avec le Théâtre National Populaire de Villeurbanne et avec le Quatuor de Bussy pour proposer une programmation.
Alors la programmation culturelle a été également riche au monastère, donc nous avons proposé des visites commentées, adaptées, en famille, une soirée ciné au musée, plusieurs conférences, un concert de romance en partenariat avec l'Université de Lyon 2, un livret avec les textes complets des citations littéraires, deux ateliers pendant les vacances scolaires. Donc vous avez ici justement une des photos des ateliers pour les 6, 10, 12 ans. Et puis nous avons aussi réalisé un projet pédagogique assez original, dont je vais vous faire écouter un extrait. Il s'agit d'un audio guide, c'est-à-dire un audio guide, mais réalisé par des collégiens et à destination du public jeune. Donc ça a été un projet pédagogique de longue haleine avec des collégiens qui sont assez éloignés de la culture et des musées, donc un vrai challenge, mais donc je vous fais écouter un des extraits. C'est assez amusant, voilà, c'était vraiment fait de manière ludique pour des jeunes.
Il faut cliquer sur le... La fascination des cloîtres.
Chers amis, bonjour.
Alors je suis désolée, du coup je n'ai pas la diapo avec les deux œuvres que j'avais prévu de vous montrer.
Qui est une candidate, Amélie Boyer. Question blanche. Dans les deux tableaux, qu'on peut voir en ce moment à l'exposition, L'invention du passé, Gothic mon amour, le peintre Fleury Richard s'inspire pour son architecture d'un célèbre monument rhône-alpin. Lequel ? Attention, il y a un piège.
La chartreuse de Saint-Bruno près de Grenoble ?
Et non, l'artiste a donné ce titre à l'un des tableaux, mais il ne s'agit pas de cet édifice. Je vous aide, il s'agit d'une église lyonnaise.
L'église Saint-Martin-des-Nez ?
Bonne réponse. On voit en effet que le peintre Fleury Richard a soigneusement étudié cette architecture. Il nous propose deux fois le porche de l'église, avec une petite différence tout de même. Vous la voyez ?
Le vitrail avec un personnage n'apparaît que sur l'un des deux tableaux.
Oui, bonne observation, mais il y a une différence encore plus étonnante.
Le paysage ? Les personnages ?
La porte, ouverte.
D'un côté, elle nous permet de voir le paysage avec un château dans le lointain, et de l'autre, la porte s'ouvre sur une montagne.
Bravo !
Alors, peut-être, voilà, comme nous avons un petit peu... Nous allons manquer de temps, donc je ne vous fais pas écouter l'extrait en entier. Mais vous pouvez le retrouver sur le site internet de Vue du Large. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur un projet assez, assez original que nous avons pu mener donc avec des collégiens. Je voulais également donc dire qu'effectivement, à l'occasion de l'exposition, donc nous avons pu aussi enrichir nos collections avec en particulier donc trois tableaux de Rosalie Caron, trois grands tableaux donc qui rappellent aussi l'importance des femmes dans ce mouvement, qu'elles soient à la fois des commanditrices ou des artistes.
Et donc pour conclure, donc cette exposition nous a permis donc ce partenariat dont nous avons été très heureux entre nos institutions. L'exposition donc a rencontré effectivement un large écho. Nous avons même été sollicités à plusieurs reprises, comme aujourd'hui, et nous remercions l'INP pour cette invitation à venir en parler. Alors notre souhait est peut-être que cette exposition ait permis de faire redécouvrir cette peinture et son contexte. Et la dernière chose que nous voulions vous montrer, c'était le teaser de l'exposition de Lyon, réalisé par un étudiant de l'école Émile Cole à Lyon, qui, voilà, vous fera un petit condensé de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui.